Figaro Radio. Le Buzz TV. Nicolas Voller et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV, Île-de-France, Figaro Radio et Figaro Live. Ça va Mathilde ?
Super.
Nous accueillons sur ce plateau un journaliste de radio, de télévision, accompli près de 40 ans de carrière dans les médias, TF1, France Télévisions, Europe 1, RTL, Radio France et maintenant RMC et BFM. Il porte un nom à consonance paradoxale mais qui résonne haut dans l'histoire de la France. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas, bonjour Mathilde.
Ravi de vous avoir avec nous sur ce plateau. Vous êtes le présentateur du Monde de Poincaré sur BFM Business chaque lundi et bien sûr chroniqueur dans la matinale d'Apolline Matin diffusée sur RMC, la radio RMC Story aussi, hein, la chaîne on n'oublie pas entre 6h30 et 8h30, la matinale d'Apolline de Malherbe dans laquelle d'ailleurs votre grande rubrique s'appelle Expliquez-nous et c'est ma première question, expliquez-nous Nicolas comment vous faites pour vous lever à 5h du matin. Voilà. C'est ma question fondamentale, évidemment. Je la pose à tous les matinées parce que je suis fasciné par ces gens qui se lèvent à 4h ou 5h du matin.
Je mets un réveil et qui sonne et que je me lève parce qu'on n'a pas le choix. Honnêtement, je me lève vers 5h du matin, ce qui pour un matinalier est très très tard. Moi, je rejoins à RMC des gens qui sont arrivés parfois à minuit et demi ou qui se lèvent à minuit ou à 1h ou à 2h. Chacun arrive à des heures différentes. Mais voilà, les vrais matinaliers sont des gens qui se lèvent à 1h du matin. Quoi. Ça, c'est l'enfer. Je l'ai fait une ou deux fois dans ma carrière, je me suis promis de plus jamais refaire.
Donc là, c'était il y a 14 ans sur France Info hein, oui. Que vous avez fait ça. Vous avez repris vos habitudes un peu ou c'est quand même toujours dur ?
France Info, je me levais très tôt ouais. Et puis dans les années 90, j'ai présenté la revue de presse de France Inter aussi,
ouais,
après
Yvan
Levaille à l'époque. Et là, je me levais à 3h et puis j'étais plus jeune, j'étais plus fêtard, je sortais le soir. J'avais des
enfants. Vous enchaîniez directement, vous
ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et ça, c'est un très très mauvais souvenir. Le réveil qui sonnait vers 2h30, 3h à l'époque de France Inter, donc en 97, c'était un coup de poignard tous les matins.
Finalement, vous préférez le matin ou le soir, comme vous l'aviez fait sur Europe 1 ou sur RTL ?
Ah non, être à l'antenne le soir, c'est beaucoup plus confortable. C'est
plus agréable.
Plus logique,
ouais,
c'est
18-20 heures.
Biologiquement, c'est plus logique. Et puis, on couvre l'actualité de la journée qui s'est passée. Donc, ça m'a beaucoup plu de le faire sur RTL, sur Europe 1, de faire le soir. Et maintenant, la matinale dans une radio, c'est aussi le moment le plus excitant parce que c'est le pic d'audience, c'est là où tout le monde écoute, c'est là où il y a le plus d'énergie. Donc les deux sont bien. Le soir c'est plus logique, le matin c'est plus dynamique.
Les invités qui arrivent et puis les premières déclarations évidemment. On va pas poursuivre cet entretien dans un instant sur Figaro Live. On va parler bien sûr de cette saison qui bat son plein du Monde de Poincaré, de la matinale et de plein d'autres choses encore. Ce sera après les news médias de Mathilde Seiffert. On commence ces infos médias Mathilde avec les réactions nombreuses suite au passage de Louis Sarkozy. C'était dans l'émission de Darius Rochebain ce dimanche.
Oui totalement. Alors le plus jeune des fils Sarkozy a bien changé depuis l'époque où son père était
effectivement.
Président de la République,
un autre homme.
On le voit à l'écran. Son fameux « Bonne chance mon papa » et ses clashs avec le fils de Valérie Trierweiler ont semblé bien loin ce dimanche quand il s'est exprimé sur la situation politique aux États-Unis sur LCI. Donc diplômé entre autres d'un master de diplomatie et de relations internationales, Louis Sarkozy a épaté les téléspectateurs, mais c'est surtout son évolution qui les a troublés. Tout ça ne nous rajeunit pas. Mince, c'est quand tu écoutes Louis Sarkozy que tu comprends que t'es vieux. En fait, on peut lire sur les réseaux sociaux.
Eh oui, tout le monde grandit. Ça vous a fait le même effet. Vous n'avez pas vu cette séquence avec Louis Sarkozy encore ?
Non, mais je vais aller la voir parce que c'est vrai que j'ai une curiosité.
Ouais. Moi, je l'avais vu. Et puis, international, c'est un peu votre dada. Voilà. Vous allez voir un peu comment il est.
Je l'avais vu gamin une fois. J'allais interviewer Nicolas Sarkozy, place Beauvau, et il était en train de jouer dans l'escalier. Il avait une gardienne de la paix, une policière qui était sa nounou un peu.
Il surveillait.
Et il jouait aux gendarmes et aux voleurs avec la policière. Il lui tirait dessus pour de faux et elle jouait le jeu. C'était assez marrant. À l'époque, je faisais de la télévision, donc j'avais essayé de filmer la scène. Parce qu'elle était quand même très marrante. Mm-hmm. Et puis on m'avait fait comprendre que non, c'était un peu privé.
Valait mieux pas filmer. S'il s'avère que c'est un bon expert en international, pourriez l'avoir sur votre plateau parmi tous vos invités que vous avez, chercheurs, universitaires, responsables, diplomates, vous pourriez avoir Louis Sarkozy ?
Ah bah ce serait rigolo, oui. Mais effectivement, sur BFM Business, dans le monde de Poincaré, on a des gens extrêmement pointus. On essaye d'avoir des gens. Alors, mais il faut que je découvre.
Il faut voir.
Il faut voir. Sur les États-Unis, avec les élections américaines qui approchent et tout,
il a peut-être peut-être une
bonne idée.
Je vous soumets ça, Nicolas. Vous faites ce que vous voulez. On poursuit ces news médias avec des nouvelles et des tristes confessions de la part d'un des humoristes préférés des Français, Jeff Panaclock.
Oui, alors il était l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission En aparté sur Canal+. Et après 16 ans de ventriloquie à donner vie à sa marionnette Jean-Marc, il craint de devoir prochainement arrêter pour des raisons de santé. Toutes ces heures à manipuler sa marionnette lui créent des douleurs au bras droit. C'est une torture aujourd'hui, c'est vraiment très dur, a-t-il confié, avant d'expliquer faire des séances de kiné avant et après chaque représentation.
Ouais, c'est vrai qu'il en avait souvent parlé de ses problèmes. On espère qu'il continuera quand même un peu. Et on termine avec le chiffre du jour, Mathilde, c'est le 7 aujourd'hui.
Oui, alors après 7 ans d'absence, la télé-réalité d'enfermement Secret Story a repris. Christophe Beaugrand a accompagné les 15 candidats dans la fameuse Maison des Secrets. Et la grosse info qu'il fallait retenir de cette soirée, c'est le piège tendu par l'emblématique voix. Ouais. Dominique Duforest avait fait ses adieux lundi sur les réseaux sociaux, mais le lancement d'hier nous a appris qu'il ne fallait pas se méfier, qu'il fallait justement se méfier des apparences et que la voix restait bien là. Ah oui. Niveau audience, Christophe Beaugrand se dit heureux. L'émission a réuni 783 000 téléspectateurs, soit 20% d'audience.
C'est fini à 2h30 du matin, ou 2h40, c'est un truc de dingue. Les téléréalités d'enfermement, pour vous, c'est un truc, vous avez regardé ça avec curiosité à l'époque du Love, par exemple, et vous ne regardez plus aujourd'hui, j'imagine.
C'est ce que j'allais vous dire, pour moi, la téléréalité, c'est le Love, c'est quand même un phénomène de télé comme on n'en a pas vu d'autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous êtes trop jeune.
2001, c'était de la folie.
Les gens ne parlaient que de ça, on allait au restaurant, on allait dans un repas de famille, les gens ne parlaient que de ça, ça
faisait la Une du Monde et du Figaro.
Et de Paris Match,
improbables.
Ça s'est jamais reproduit un phénomène pareil. Et donc c'est vrai que Secret Story, ça arrive un peu derrière. Et je suis pas cœur de cible.
Vous êtes pas la cible. Ouais. Vous avez des enfants qui regardent ça ou qui continuent
Je crois que mes enfants regardent pas non plus, mais je leur demanderai.
Bon, très bien. Alors on va procéder dans l'ordre. Hein. D'abord il y a le matin, et le matin c'est Apolline Matin tous les jours sur RMC, RMC Story, une matinale en bande pour ceux qui n'ont pas écouté encore depuis la rentrée ou qui captaient mal du fin fond de leur grotte. Il y en a sûrement quelques-uns. Comment vous qualifieriez cette matinale qui est assez différente par rapport à celle de vos confrères, de vos concurrents d'ailleurs, RTL, Europe 1 ou France Inter? C'est matinale un peu à part, celle d'Apolline.
Oui, alors... Déjà, c'est le nom, c'est Apolline. Et Apolline, c'est effectivement matin, Apolline de Malherbe qui crée cette ambiance depuis 4 ans maintenant et qui fait que cette matinale est un petit peu différente parce qu'elle est un petit peu différente. Elle est extrêmement cash, quoi. Elle dit ce qu'elle pense d'une façon assez surprenante. Elle a des convictions. Donc ça, c'est la première particularité de cette tranche. C'est celle qui l'incarne. Et puis la deuxième particularité, ce sont les auditeurs par rapport à d'autres matinales
qui interviennent
Qui interviennent beaucoup. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de les écouter, parce que c'est la France qui se lève tôt, comme disait Sarkozy, dont on parlait tout à l'heure. On a beaucoup d'auditeurs qui nous apprennent beaucoup de choses, qui sont souvent acteurs de l'actualité, qui sont concernés. Et puis alors, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup d'auditeurs qui s'appellent Karim, qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Ahmed, et qui nous appellent pas pour parler de l'immigration, pas pour parler de l'islam, mais pour parler du pouvoir d'achat, pour parler de l'autorité à l'école, pour parler de leur quotidien. Mmh. Quand on écoute RMC, on s'aperçoit qu'il y a une France, encore une fois, celle qui se lève tôt, qui est très diverse,
multiculturelle,
et en même temps 100% intégrée. Ils sont français, ils nous parlent de leurs problèmes de français, et voilà, et ça m'intéresse.
Pas de problème communautaire, communautarisme, vous voulez dire.
C'est ça que je voulais dire. Ouais.
Et alors, vous êtes également diffusé sur RMC Story, donc Canal 23 de la TNT. Est-ce que vous vous considérez plutôt en concurrence avec les matinales radio ou plutôt télé, comme BFM TV, CNews, Télématin ou Bonjour?
Alors moi je viens de la radio, donc c'est vrai que j'ai l'impression de faire de la radio.
Il y a les deux.
J'écoute les autres radios, Europe 1, RTL, France Inter, pour savoir ce qu'ils font, pour voir si, et donc plutôt que d'aller regarder les autres matinales télé. À part la matinale de BFM, parce que c'est le studio d'à côté, donc là on se croise,
oui,
etc.
Voilà.
Et puis même parfois j'y passe.
Il
m'appelle, je reviens refaire parfois ma chronique chez eux. Donc mais c'est vrai que dans ma tête, moi je suis quelqu'un de radio et j'ai l'impression de faire de la radio, même si effectivement on a d'assez bonnes audiences
en télé.
Hein, ça nous est arrivé de battre TF1.
Ouais. Et Bonjour. Ouais.
Voilà, Bruce Toussaint, on est parfois devant, c'est quand même étonnant. Alors que c'est fait avec des bouts de ficelle au départ.
C'était la radio filmée, c'est devenu quand même une émission aussi maintenant sur RMC Story.
Oui, parce que il y a des reporters qui sont des vrais MacGyver, qui se partent tout seuls, qui font de la radio, qui font de la télé, qui font le montage, qui rajoutent des images,
la prise de son.
Voilà, et à la technique, pareil, on a des techniciens quelqu'un qui sont capables de faire de à la fois une régie télé et une régie radio, et tout ça fonctionne. Moi, je suis assez admiratif d'ailleurs de la façon dont ça se goupille, alors que au départ c'est vraiment de la radio filmée, et c'est plus de la radio filmée, c'est devenu de la vraie télé. Ouais.
Alors vous avez plusieurs rubriques. Alors la rubrique phare, expliquez-nous, qui diffuse juste avant 8h, hein, c'est ça, dans laquelle vous revenez sur un fait d'actualité en l'expliquant en détail, c'est ça, en essayant de l'expliquer. Est-ce que c'est facile de le faire, parfois, quand c'est une actu complexe, en moins de... Vous faites en moins de 5 minutes, hein.
Oui, 4 à 5 minutes, oui. C'est pas facile, mais c'est passionnant. Moi, ça correspond à ma vraie curiosité naturelle, c'est-à-dire que j'ai pas tellement envie de zapper d'un sujet à l'autre, de maîtriser toute l'actualité, etc., de vous parler à la fois de Kenji Girac et de je sais pas quoi, et de l'Ukraine. Donc, le fait qu'on m'ait demandé, il y a 5 ans, quand j'ai commencé cette chronique, de me concentrer sur un sujet, le plus compliqué, celui où on n'a pas tous bien compris qu'est-ce qui se passe dans les facs américaines, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe avec les retraites.
L'Iran envoie des missiles sur Israël, c'est ça. Et là, donc vous, je prends 4 minutes, vous me l'expliquez.
J'essaye d'être compréhensible par tout le monde. C'est un vrai challenge tous les matins, et j'adore ça. C'est un vrai plaisir de tous les matins essayer de rendre simple quelque chose qui ne l'est pas.
Oui, c'est un petit peu comme quand vous faisiez les revues de presse sur France Inter, par exemple. C'est ce même exercice de voltige tous les matins.
Il y a un petit peu de commun, parce qu'effectivement, les informations... Bon, je passe des coups de fil, j'enquête, j'appelle les spécialistes de la maison, de BFM ou d'RMC, etc. Mais je lis beaucoup la presse étrangère, je lis beaucoup les journaux, j'essaie de les citer, de leur rendre hommage. Figaro, régulièrement. Mais oui, il y a un petit côté revue de presse aussi, oui. Ouais.
Et racontez-nous, alors, ça, c'est avant 7 heures, c'est un exercice un petit peu différent. Hein.
Oui, alors ça, ils me l'ont rajouté parce qu'ils trouvaient que j'étais trop payé pour pas assez bosser. Donc ils m'ont dit, allez,
ils voulaient faire venir plus tôt.
Voilà, on va t'en coller une deuxième.
6h50, 6h55.
Ouais. Au départ, c'était un portrait. Tous les matins, je faisais le portrait de quelqu'un. Puis maintenant, c'est devenu une histoire. Et ça ressemble un peu, parce que les histoires, les portraits, c'est souvent un petit peu... Donc j'essaie de trouver dans l'actualité une histoire sérieuse ou anecdotique. C'est vraiment... Ça passe de... Ce matin, c'était Mathilde Panot, l'histoire d'une politique qui va se retrouver devant la police, donc c'est plus un édito, c'est plus politique, etc. Et demain, ça peut être quelqu'un au bout du monde à qui il est arrivé une histoire étonnante. Enfin, c'est tous les jours différent.
Et alors, il y a également votre émission hebdomadaire sur BFM Business, Le Monde de Poincaré. Là, on est vraiment dans l'international. Est-ce que c'est devenu votre sujet de prédilection?
Alors, j'ai toujours bien aimé. Hein. J'ai fait des reportages à l'étranger pendant une vingtaine d'années. Enfin, j'ai toujours beaucoup traité de l'actualité internationale. Je suis reparti récemment en reportage le 7 octobre en Israël, il y a 2 ans en Ukraine. Enfin, donc j'ai ce prisme. Je ne suis pas un journaliste 100% étranger, mais enfin, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et c'est vrai que quand BFM Business, à la rentrée, m'a proposé une émission d'une heure, c'était passionnant, parce que on a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de pression d'audience. Hein. C'est une chaîne haut de gamme, c'est une chaîne un petit peu de niche. Pour vous dire la vérité, on ne sait même pas très bien combien de gens nous écoutent, mais on sait qu'il y en a. C'est ça la vraie chance, en fait, de faire à la fois de l'étranger sur une chaîne qui n'a pas la pression de l'audimat, où on ne vous engueule pas le lendemain matin en disant « regarde les chiffres, c'est pas terrible », etc., comme ça arrive dans toutes les autres chaînes. Là on est content. Et du coup, ça nous a permis, depuis le début de l'année, de faire des débats sur des sujets dont personne ne parle.
Hein, c'est très pointu, hein, il faut le dire. Hein, les sujets qu'on a dedans sont très pointus. Les experts que vous avez sont très pointus, des chercheurs, des universitaires, souvent des diplomates très, très qualifiés. C'est recherché, c'est ce que vous vouliez, Nicolas, c'est ça? Parler de sujets qui ne sont absolument pas abordés dans les médias mainstream ou l'actualité grand public.
Voilà, alors quitte à, effectivement, parce que l'actualité internationale, tout le monde la traite, hein, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe... Donc on essaye d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on n'est pas à chaud, on n'est pas tous les jours, on n'est pas une chaîne d'information continue où les gens vont venir se brancher dès qu'il se passe quelque chose. On arrive souvent un petit peu après, un petit peu décalé. En plus, on est rediffusé plusieurs fois dans la semaine, donc il ne faut pas être trop le nez sur le compteur tout de suite. Et du coup, effectivement, on a visé d'aller le plus haut possible. On reçoit beaucoup d'anciens ambassadeurs, on reçoit des anciens Sherpas, c'est-à-dire conseillers du président de la République, on reçoit des universitaires, beaucoup d'universitaires. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les universitaires. Je trouve que ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ont fait des thèses, qui ont écrit, et qui nous apportent beaucoup, et qui permettent, effectivement, j'espère, souvent d'aller plus loin. quand on fait l'Iran, cette semaine on a fait l'Iran, on avait vraiment des gens qui connaissent la société. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait un plateau sur la Chine, je me suis aperçu à la fin du plateau qu'ils parlaient tous chinois, mes invités. Je ne les avais pas sélectionnés pour ça, mais je me suis aperçu à la fin en leur disant, en fait, vous parlez chinois? Ils m'ont tous dit, bah oui, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, faire un plateau sur la Chine avec que des gens qui parlent chinois, ce n'est pas commun.
C'était pas évident, mais est-ce que vous allez continuer à la rentrée, cette émission et la matinale, Nicolas?
Alors,
non.
Non, mais c'est tout frais, tout neuf, parce que ça vient de se décider. Alors voilà, je vais changer de crème. Alors d'abord, il faut préciser que l'émission se poursuivra. BFM Business a déjà décidé de poursuivre avec quelqu'un d'autre, et tant mieux.
Et vous savez pas qui encore ?
Et je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Sinon, je vous le dirai. Et quant à moi, j'ai une belle proposition effectivement que je viens d'accepter. C'est tout frais de rejoindre la boîte de production de David Pujadas, qui s'appelle Particule, qui est une société qui produit à la fois l'émission de David Pujadas sur LCI 24h. Pujadas, de 18h à 20h, et qui produit par ailleurs des reportages. Et donc c'est surtout ça dont je vais essayer de m'occuper, de développer des reportages et de faire des reportages pour les...
Plutôt un peu derrière la caméra, du coup ?
Non, plutôt producteur.
Producteur,
voilà, plutôt producteur, et donc plutôt faire travailler des auteurs, des réalisateurs, des reporters pour créer des reportages qu'on espère vendre à toutes les chaînes, en fait, comme toutes les sociétés de production.
Une reconversion, en fait. Hein,
c'est un tout nouveau métier. À 62 ans, je me lance dans quelque chose que je n'ai jamais fait avant et qui m'excite beaucoup.
Vous avez fait le tour un petit peu du journalisme?
Non, on n'a jamais fait le tour, mais c'est vrai que vous l'avez cité un petit peu tout à l'heure, je crois que j'ai travaillé dans une quinzaine de médias différents en 40 ans. Donc j'ai souvent changé. Là, je viens de passer c'est 5 ans formidables à RMC, parce que vraiment, c'est une équipe très sympa, très bienveillante, très enthousiaste, etc. Donc, mais voilà, j'ai eu cette proposition et je ne sais pas dire non. Voilà. Non, mais en plus, c'est excitant. C'est excitant de commencer un nouveau métier. Voilà, et puis 24 ans plus tard, c'est une belle émission. Si on parlait de l'étranger à l'instant, c'est aussi une émission ambitieuse
sur LCI, en tout cas.
Et ambitieuse sur le fond, hein, qui traite de l'étranger d'une façon extrêmement intelligente. Voilà, donc tout ça m'a attiré.
Alors du coup, ça vous concerne peut-être moins, mais évidemment, dans l'actualité, il y a le rachat programmé aussi du groupe Altis, BFM, RMC, par le groupe CMA-CGM de Rodolphe Saadé. Les patrons du groupe, Patrick Drahi et Arthur Dreyfus, s'en sont félicités. Vous aussi, pour vous, c'est vrai que c'est un vrai changement important. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de contrôle de...
Ça a été une surprise, hein. Ça a été une surprise, parce que ça avait été souvent démenti. Et puis un vendredi matin, comme ça, on a vu les chefs s'affoler, courir dans les couloirs, et un quart d'heure après, on nous a dit, on est racheté. Alors, quand on est racheté, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on récupère. Ouais. Alors, en l'occurrence, donc, c'est Drahi qui partait. Drahi qui était un actionnaire qui n'est jamais intervenu. Moi, en 5 ans, j'ai jamais entendu parler ni d'une intervention sur ce que je faisais, mais même par ricochet sur d'autres. J'ai jamais entendu dire Drahi souhaiterait, Drahi voudrait, Drahi a décidé. Il était vraiment l'actionnaire dormant, j'allais presque dire. Donc, ça, c'était une chance. Le nouveau, eh ben, me demandez pas, j'en sais rien.
Vous connaissez pas ?
J'en sais rien.
On va vous le présenter, hein, Mathilde. Il a une réputation quand même.
Rodolphe Saadé a été qualifié de personnage en quête d'influence et proche du président Macron. Par le Figaro, de nouveau Bolloré version Macron par Courrier International ou encore de chouchou du président par Mediapart. Est-ce que vous craignez du coup par cette réputation un manque d'indépendance du groupe ?
Qui vivra verra.
Ce sera pas vous, en tout cas vous serez plus là.
un nouveau Bolloré, ça me semble très exagéré. Je pense que Bolloré est vraiment quelqu'un qui a un agenda politique, une volonté d'influencer sur l'avenir de ce pays, de pousser l'extrême droite, pour être clair, hein, et de le faire avec une grande brutalité souvent. Donc j'espère et je pense que Rodolphe Saadé n'est pas dans le même registre. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre après sinon, proche de Macron ?
Tout le monde constate, hein, quels que soient les journaux, quelle que soit l'opinion des journaux, tout le monde a un peu le même.
C'est ce qui se dit, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Il faut se méfier des on-dit et des rumeurs. Non, je crois que c'est vraiment difficile aujourd'hui de dire ce qu'il va faire à la tête de ce groupe. Moi, je note que pour l'instant, il a donné des assurances à l'équipe actuelle, c'est-à-dire Arthur Dreyfus, Hervé Berrou, Marc-Olivier Fogiel, Karim Nedjari, de rester en place. Donc, et ils l'ont cru. Hein, eux ont répété, tous, mes chefs.
Donc, ils ont eu tort,
m'ont tous dit qu'ils avaient confiance et qu'ils restaient et qu'ils espéraient pouvoir faire leur boulot tranquillement. Donc, tant qu'on ne prouvera pas que c'est faux, faut le souhaiter. Ouais.
Alors, j'en profite, je rebondis sur ce que vous aviez dit, Nicolas, parce que Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM, lui-même a dit qu'il ne considérait pas CNews comme une chaîne concurrente, une chaîne d'info, et il la qualifie de chaîne d'opinion. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus ? Pour vous, c'est pas une chaîne d'info ? d'info, CNews ?
Alors, chaîne d'info, chaîne d'opinion, c'est incontestable. Est-ce que faire de l'opinion, c'est ne plus faire de l'info ? Ça se discute. Ils disent que faire de l'opinion, faire du débat, c'est faire de l'info. Peu importe, mais chaîne d'opinion, c'est évident, quoi. Moi, je regarde, hein, je regarde et je m'énerve. Je m'énerve.
Vous énervez devant CNews.
Et voilà, tous les téléspectateurs de CNews ne sont pas forcément adeptes des idées politiques professées par cette chaîne. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui regardent pour voir ce qui se dit de ce côté-là. Mais, mais bon, c'est une chaîne qui a choisi son parti pris, hein, et qui l'assume tranquillement. Personne ne s'en cache. Hein, parce qu'elle,
on a le droit en France d'avoir une chaîne d'opinion, il y a des journaux d'opinion. Alors, est-ce qu'une chaîne de télé peut aussi exister en opinion ?
Alors, c'est tout le débat qui a eu lieu devant cette commission d'enquête, qui a mal eu lieu, d'ailleurs, parce que c'était ni fait ni à faire. Les questions n'étaient pas bonnes, les réponses non
plus. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit, effectivement.
Donc, c'était tout le débat. Effectivement, au départ, on leur a donné une concession, enfin, une autorisation d'émettre pour faire une chaîne d'information. Ils ont bifurqué vers une chaîne qui est beaucoup plus une chaîne d'opinion. Est-ce que ça mérite de plus exister ? Je ne crois pas. Je crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui, en France, on va retirer l'autorisation à CNews parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'on leur avait dit. Moi, je ne pense pas que ce serait un service à rendre à la démocratie que de censurer cette chaîne. Je ne l'aime pas, je ne vous le cache pas, mais je ne suis pas du tout pour qu'elle...
Vous dites comme Voltaire, le traité tolérant de Voltaire.
Ouais, alors Voltaire aurait dit, mais je ne suis pas sûr que la situation soit exacte, aurait dit je suis prêt à mourir pour que vous puissiez continuer. Moi, je ne suis pas prêt à mourir pour Bandini.
Mais je me bats pour que vous puissiez exprimer vos idées, justement. Ça rejoint ce que l'ARCOM prévoit. Hein,
oui, le fait que le Conseil d'État ait demandé à l'ARCOM une sorte de fichage des invités en plateau non politiquement présent, déclaré. Est-ce que ça vous inquiète justement ou ça vous rassure ?
Non, ça m'inquiète et surtout je leur souhaite bon courage.
C'est infaisable.
C'est absolument infaisable. Ouais. J'ai eu des échos par des gens de l'ARCOM que j'ai eu l'occasion de croiser, sans citer précisément de qui il s'agit. Ils n'y arrivent pas. Le Conseil d'État leur a donné 6 mois pour le faire. Je crois que 2 mois et demi à peu près sont passés. Ouais. Ils n'ont pas avancé d'un chouïa. Ils ne savent pas, ils ne voient pas comment on va faire pour essayer de dire tel journaliste est de gauche, tel journaliste est majorité présidentielle, tel autre est d'extrême droite. Et c'est absolument infaisable. Ils en sont à voir si on ne pourrait pas, avec de l'intelligence artificielle, comparer ce qui se passe à l'Assemblée. C'est-à-dire, on prendrait tous les débats, ce qui est dit, puis on dirait, tiens, je ne sais pas, mettons la fin de vie, 75% des députés sont pour, alors il faudrait qu'à l'antenne, à peu près 75%. Et puis, ils réfléchissent à des trucs comme ça, avec de l'intelligence artificielle, et puis très vite, ils disent, mais ça ne marchera jamais. Donc, je crois que le Conseil d'État n'a vraiment pas fait un cadeau en disant à l'ARCOM d'essayer de mesurer le temps de parole des invités non politiques.
Parce que vous pourriez aussi être concerné dans le monde de Poincaré. Est-ce que vous voyez en train de demander à vos invités pour qu'ils votent ?
Non, mais ce serait impossible. C'est impossible, ni dans le monde de Poincaré, ni dans la matinale d'RMC. C'est absolument
pourtant,
impossible.
Vous devriez le faire. Si c'est imposé, vous devriez savoir.
Alors je pense que je pense que ce qui risque de se passer, c'est que l'ARCOM va dire au Conseil d'État. L'ARCOM ne peut pas dire au Conseil d'État, c'est impossible, on peut pas faire. Non. Mais ils peuvent dire, voilà 3 solutions qu'on a identifiées et elles sont toutes les 3 mauvaises. Ouais. Et elles sont toutes les 3 juridiquement discutables. Et donc ils renverraient la patate chaude au Conseil d'État en disant, voilà nos 3 solutions, merci d'en choisir aucune. C'est peut-être comme ça que ça va se
passer. Peut-être. Alors, on y reste encore juste quelques minutes. Je voulais qu'on parle aussi de complément d'enquête, Nicolas, que vous avez présenté entre 2014 et 2017. Vous avez succédé au regretté Benoît Duquesne, hein, qui avait créé cette émission. Il y a eu Thomas Soto, Jacques Cardoz et Tristan Vallex après vous. Et Jacques Cardoz, il y a quelques mois, affirmait qu'il ne pouvait pas enquêter sur certains sujets, notamment de gauche. Est-ce que vous avez connu ça, vous qui avez connu cette émission il y a une dizaine d'années maintenant, hein, c'est ça ?
Non, c'est un peu un colcause, complément d'enquête. C'est une bande qui s'autogère, vous voyez, très très indépendante, avec une rédaction très forte et qui ne subit aucune pression. Enfin, qui est
vous
très,
l'avez
très
jamais senti pendant 3 ans qu'il y avait des sujets plus qui attaquaient les gens de droite plutôt que des gens de gauche ?
J'ai jamais eu le moindre interdit, et s'il y avait eu le moindre interdit, tout le monde aurait hurlé. C'est une rédaction qui est tellement attachée à son indépendance qu'elle l'aurait fait savoir. Non, moi j'ai travaillé pendant 3 ans en toute liberté, avec zéro pression de personne.
Oui, parce qu'entre 2014 et 2017, vous avez fait des sujets sur Jean-Marie Le Pen, l'affaire Benmalion, Alain Juppé, Patrick Balkany, Vincent Bolloré.
Serge Dassault aussi.
Oui, Serge Dassault. Ouais. C'est essentiellement des sujets.
Bolloré, vous avez demandé 50 millions d'euros d'ailleurs, je crois, avant. Il a été débouté.
Oui, il a été débouté de toutes les procédures en France, mais ensuite il était à nous poursuivre au Cameroun, et au Cameroun, c'est pas terminé. On a été condamné, y compris moi-même, à titre personnel, à une très très grosse amende en première instance, et on est en appel au Cameroun. Donc il lâche pas l'affaire, oui. Vincent Bolloré.
Mais c'est plutôt des gens de droite, tout ça. On est d'accord.
La liste qu'on vient de faire
Jean-Marie Le Pen, Juppé, Balkany, Dassault, Bolloré...
Oui, alors vous me prenez de quoi parce que j'ai pas réfléchi.
Big Malion, oui. Quand même que de droite, tout ça. Mais même récemment, il y a eu le Puy du Fou, Michel-Édouard Leclerc, Cyril Hanouna, Jordan Bardella, je parle de ceux qui ont vraiment marché. C'est pas trop à gauche non plus.
Oui, tel que vous me le dites.
Mais oui, je regarde tous les sujets qui se passent.
Non, mais parce que
quand il s'agit de personnalité, après il y a des affaires plus globales. Oui. On va parler de la distribution d'eau, du scandale de la déforestation. Voilà. Ça, c'est ni de droite ni de gauche. Ouais. Mais quand c'est des personnes, effectivement, c'est 9 fois sur 10 des gens de droite.
En fait. Alors, ça m'avait échappé. Et non, mais moi, en plus, je veux parler que des 3 ans où j'y étais. Je veux pas critiquer. Dans les 3 ans où j'y étais, on faisait assez peu de portraits. Donc, effectivement, il y a eu Bolloré. Il y a eu quelques autres, mais on en faisait assez peu. Et on avait une actualité qui était énormément marquée par les attentats. On a eu les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. On a beaucoup traité ces questions-là. Et mon souvenir, c'est qu'on n'était pas une émission politique spécifiquement. On a fait effectivement des belles enquêtes sur Big Malion, qui avec beaucoup de révélations. Enfin, c'est ce qui a débouché sur un procès qui a raconté à l'audience exactement ce qu'on avait raconté plusieurs années avant. Vous me prenez de court sur le fait qu'on n'ait pas fait de portrait à charge sur des gens de gauche. Il faudrait que je vérifie.
Bon, on vérifiera dans les archives.
Là, ça ne me revient pas, mais je suis sûr qu'on a été aussi poil à gratter pour des parties de gauche.
Merci beaucoup, Nicolas Poincaré, d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on retrouve du lundi au vendredi sur RMC, RMC Story, dans la matinale d'Apolline Matin, et chaque lundi, 14h, Le Monde Poincaré sur BFM Business, et à la rentrée dans votre nouvelle aventure aux côtés de David Pujadas. Et merci encore de votre fidélité.